pourriez rapidement, enfin, comme vous voulez, présenter chacun votre parcours artistique?
Bah vas-y, hein, Stéphane,
Ouais.
je crois que c'est à toi de...
Bah écoute, moi ça fait un moment que je suis dans le milieu de la musique métal, on va dire depuis même le début des années 90, hein, avec des groupes voilà, qui ont plus ou moins percé ou pas. Et puis, on avait sorti il y a quelques années, il y a même presque 15 ans, un album avec un groupe qui s'appelait Holocorp, qui était plus dans la mouvance métal. Metal Sludge. Et donc après ça, on a arrêté avec ce groupe et j'ai commencé à monter ce projet Crown en 2010. Et puis là, on est à notre troisième album qui va sortir l'année prochaine.
Non, non,
La
la
semaine
semaine
prochaine.
prochaine.
Là, je commence vraiment à fatiguer, là, bordel. L'année prochaine.
J'espère pas. Ça, et ils nous ont déjà reporté deux fois la sortie. S'ils nous le reportent à une semaine, ce serait les boules, quoi. Tu vois, là, on serait mal. Hein.
L'année prochaine, peut-être, hein. On sait jamais. Hein. Là,
En ce moment, c'est difficile de faire des plans sur la comète. Mais bon.
Non, mais totalement, ouais.
Ah ouais.
Là, c'est
Mais
calé. C'est calé,
ouais,
ouais.
c'est calé. Ouais. Ça a été repoussé deux fois quand même là. Donc,
Okay.
ouais. Et ben, sinon, à côté de ça, écoute, je résume vite, mais je suis un ingénieur du son je fais des tournées à l'étranger avec des groupes. J'ai bossé avec Alcest, je bosse avec Abbath aussi, hein, avec The Ocean. Enfin, voilà, je fais pas mal bourlinguer autour de la planète, on va dire.
Voilà, donc moi, David, alors moi je te la fais plus courte. J'étais un des deux membres de principaux de Wavefront dans les années 90-2000. J'ai joué dans LTNO, je suis producteur, j'ai dû produire genre 450 albums. Et j'ai commencé à bosser avec Steph sur l'album précédent où je suis intervenu sur la fin pour faire de la prod et le mix de l'album Natron, celui d'avant. Et puis celui-là, il voulait qu'on le fasse tous les deux ensemble. Et assez rapidement, je me suis retrouvé à toujours le laisser composer et les textes et la musique, parce que ça, il fallait que ça reste l'ADN du groupe, mais à jouer un petit peu plus une bonne partie des guitares, et puis à faire évidemment la prod et le mix aussi cette fois-ci, mais à pousser un petit peu le côté, déjà à pousser Steph pour ce tournant, parce que c'était un tournant, même si peut-être on n'en était pas hyper conscient au début, mais voilà, et puis à jouer voilà, les grattes, et puis et des claviers, et des choses comme ça.
D'accord. Finalement, quelle était vraiment l'idée d'origine? Donc, vous avez tous les deux une grosse expérience dans le milieu, peut-être plus donc sur le sur entre guillemets les coulisses et aussi donc sur scène à travers différents projets. Quelle était vraiment l'idée fondatrice de Crown?
Ah oui, bah, bonne question. Bah, au début, c'est quand j'ai commencé le groupe, c'était vraiment quelque chose d'assez minimaliste et voilà, basé essentiellement en live sur des machines, pas de batterie et un peu à la Godflesh, tu vois. Donc machine, puis
Et très grosse guitare.
et très grosse guitare, ouais.
Ouais.
Ah ouais, puis on avait des bicordes, donc c'était accordage très bas. Et puis une espèce de mélange de metal sludge avec des consonances industrielles. Et puis voilà, puis je pense qu'on a fait le tour de la question en tant que duo, quoi, on va dire en live, puisque maintenant sur le nouvel album, pour le live, on est un groupe de quatre personnes, quoi. Deux guitares, un chant et puis batterie, voilà.
D'accord. Si on prend justement, si on revient sur l'époque Natron, donc 2015,
Ouais.
est-ce qu'il y a un souvenir en particulier de cette période qui, pour vous, un peu la caractérise? Enfin voilà, si vous pensez à cette époque Natron, que ce soit l'enregistrement, la tournée, etc., est-ce qu'il y a un souvenir qui en particulier revient rapidement à l'esprit?
Moi, j'aurais envie de dire, alors franchement, moi, encore une fois, je suis intervenu en tant que producteur sur la fin, et je sais pas ce qu'il y a dans la tête de Steph, mais... Moi, j'ai souvenir quand il est revenu de studio parce qu'il a mixé ce disque une première fois. J'ai souvenir de à quoi ressemblait le disque. Et si tu veux, on a eu une dizaine de jours parce qu'il fallait que ça sorte assez rapidement sur le label qui était le label de Crown avant. Et je peux te dire que ces 10 jours-là, ils ont été assez spectaculaires parce que on a retourné cet album. assez sérieusement, quoi. On lui a.
Ah, t'es d'accord, hein?
On lui a mis,
ouais,
on lui a fait
complètement.
un lifting, une liposuccion et
Ouais.
un. Ou au contraire, on a rajouté du gras, peut-être. Tu vois, on a un truc qui se fait pas vraiment dans le dans la chirurgie esthétique. Alors, je sais pas si toi tu le dirais autrement, mais là, il y a eu un espèce de truc, une espèce de changement comme ça, assez radical. Déjà, il y a eu de la basse, ce qu'il n'y avait jamais eu chez Crown avant, assez rapidement. Moi, quand j'ai foutu les mains dans le cambouis, j'ai mis ce qui me semblait, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, ce qui me semblait important d'y mettre, quoi.
Ouais, bah, j'allais parler de la même chose aussi. C'est quand on a, ouais, parce que j'étais un peu quand j'avais fait le premier mix, enfin quand on avait, j'avais bossé sur ce premier mix, j'étais pas, ouais, j'étais un peu désabusé quand je me disais putain l'album doit sortir d'ici peu, et puis j'étais pas, c'était, ouais, ça collait pas quoi. Et du coup, ça a été vraiment excitant de bosser avec David parce que ça donnait une couleur et puis le truc était 1000 fois plus puissant et voilà, ouais. C'était vraiment le jour et la nuit, quoi.
Oui, c'était alors pour finir sur ce truc-là, c'était un challenge parce que, comme dit, il y avait 10 jours mastering compris, et je sais que rien que dans les 2 premiers jours, j'ai reprogrammé, si on peut dire, parce que j'ai respecté ce qui avait été fait, mais j'ai changé absolument tous les sons de boîte à rythme et tout, fait toutes les basses et tout en 2 jours déjà, ça avait pris. Totalement une autre couleur et une autre ampleur, en respectant évidemment le postulat de base, hein, tu vois.
Et justement, donc Steph, à aucun moment, bon, vous travaillez tous les deux parce qu'il y a une forte confiance, vous vous connaissez, vous savez comment fonctionne l'autre et ce qu'il va vous apporter. Mais Steph, de ton côté, il n'y avait pas la crainte à un moment de donner entre guillemets ton bébé à David et qu'il te le transforme et que tu vois, tu perds la main dessus ou tu perds le contrôle dessus. Ça t'a jamais.
Non, parce que. Après, tu as toujours un peu de crainte comme ça, mais moi j'étais vraiment fan de ce qu'il faisait avec Wavefront dans les années 90, et puis j'ai toujours un peu rêvé de travailler avec lui. Je me suis pas vraiment, je m'attendais pas à pouvoir bosser concrètement avec lui, tu vois, que ça arrive vraiment, quoi. Et puis, je me rappelle que, il me semble que avant que je parte au mix, je t'avais envoyé un morceau. C'est possible ça, que tu m'avais fait un morceau avant que je. Ouais, c'est ça. J'avais envoyé un morceau à David
Ah, je me
parce
souviens
qu'on
plus.
était entré en contact. Et je me suis dit, je vais quand même lui demander de bosser sur un morceau. Et il m'a renvoyé le morceau. J'étais sur le cul par rapport au son. Et le lendemain, donc, je suis quand même allé mixer l'album. C'était en Allemagne. Et je suis venu, je dis, putain, c'est par la hauteur de ce que David m'a envoyé. Et puis après, j'étais vraiment confiant. Je me suis dit, bah. Voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde au niveau de l'univers de Crown et puis de ce qu'il pouvait apporter. Puis j'ai pas vraiment eu de crainte, tu vois, c'était vraiment ça s'est passé vraiment super bien, il me semble, hein.
Oui, non,
Si je
mais
me
et
souviens
puis.
bien.
Moi, pour compléter ça, j'ai envie de te dire, tu sais, quand tu, sans prétention mal placée, si tu fais ce job et que tu es fait pour faire de la prod, tu respectes l'entité de l'artiste, tu vois. Moi, je suis hyper, comment je peux dire, je suis un trou du cul de fils de pute radical, tu vois. Mais, en parallèle de ça, je suis très, très respectueux de ce que font les gens. Je sais qu'ils y donnent, les artistes en général. Et là, à ce moment-là, moi, je jouais pas dans le groupe, mais je savais qu'il y avait un background, je savais qu'il y avait un historique, je savais qu'il y avait aussi quand même des gens qui suivaient le groupe. Et ouais, il était hors de question pour moi de dénaturer la chose. Ce que j'ai fait, tu sais, tout ce que je fais comme ça, j'ai toujours du coin de l'œil, je regarde le mec à côté de moi pour voir s'il commence à tiquer. Si je vois que ça tique, et alors à moins que je pense que vraiment c'est une bonne idée qu'il faille insister un petit peu, mais en général, je me ravise. Tu vois, je suis pas là pour ramener les mecs dans des chemins qui veulent pas emprunter. Hein. C'est pas l'idée. Hein. Tu vois, l'idée c'est juste de
Ouais,
faire mieux. Quoi.
c'est ce que j'allais ajouter justement. C'est ce que j'allais rejoindre ce que tu disais en disant que il n'a pas du tout dénaturé les morceaux ou quoi que ce soit. Il a pas emmené dans une direction complètement où tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était vraiment ça, c'était vraiment un plus, même plus, enfin, quelque chose de un plus énorme par rapport à ce que j'avais déjà en. Composer et tout ça, j'étais vraiment, je me suis dit, ben voilà, ça correspond totalement à l'idée que j'ai de de comment ça devrait sonner. Et puis voilà, c'était une espèce d'osmose comme ça d'alchimie qui a vraiment bien fonctionné, quoi.
A priori, enfin, pour la période Natron, il y a eu une tournée qui a suivi,
Ouais.
avec en particulier un show en Bulgarie et deux shows en Grèce. Quel souvenir t'en gardes?
Ah, c'était incroyable. Le show en Bulgarie, c'était un des meilleurs qu'on ait fait, je pense. Enfin, je veux dire, pas peut-être pas musicalement, mais le public était. J'en garde un souvenir. Ouais, c'était incroyable. Et en Grèce aussi. C'est des pays dans lesquels j'avais déjà tourné en tant qu'ingénieur du son. Et je savais que justement dans les pays où ils ont, dans les pays pauvres, hein, en général, les gens sont complètement. Ils attendent que ça de pouvoir voir un concert et puis de. Je me souviens qu'il y avait des gens. C'est la première fois que ça arrivait, des gens qui pleuraient devant la scène. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Effectivement, je pense qu'ils n'ont pas énormément de choix. Il y a assez
Ouais.
peu d'envergure qui passe. Et les mecs, ils sont, enfin, c'est des internats, donc ils sont chauds, ils s'en sentent bien, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis après, j'avais discuté avec une personne qui nous avait acheté un vinyle. Et on avait essayé de baisser les prix parce qu'il y avait le groupe le tête d'affiche qui disait non, non, ça reste à ce prix-là. Je dis, moi, je ne voulais pas parce que je savais que le salaire moyen là-bas, c'est la misère, quoi. Et il y a un gars qui m'a dit, ouais, bah, ça représente ça par rapport à la paye que j'ai par mois. Je dis, waouh, ça représentait peut-être un tiers de sa paye, donc c'est énorme pour un vinyle. Hein. Et donc on lui a filé un t-shirt et des trucs comme ça. Mais le public était, ouais, c'était incroyable dans ces pays, notamment même en Roumanie ou en Grèce, où ça peut se voir aussi en Amérique du Sud. Hein. C'est des pays où quand tu joues, les gens sont complètement. Ils sont complètement à fond. Enfin, j'ai rarement vu ça, quoi.
Mais bon, c'est pour et une ambiance, quoi.
Ouais. Ils sont vraiment. Bah, il y a des pays où tu vas jouer où je vois ça même pas. Bon, comme dit, quand je bosse avec d'autres groupes où les gens sont un peu pas amorphes, mais tu vois, peut-être un peu blasés. Mais dans ces pays-là, comme il n'y a pas souvent non plus de concerts, je pense, tu vois, de groupes qui arrivent à. Enfin, qui ont l'envie aussi d'aller là-bas parce que tu en as qui occulte clairement le fait d'aller dans ce pays-là. Mais bon, j'ai déjà été en Turquie ou en Russie aussi, où les gens sont complètement. C'est un territoire où j'aimerais bien bah, qu'on joue à écran, notamment en Russie, parce que les gens peuvent paraître souvent assez froids comme ça quand tu les rencontres, tu les vois, et puis en concert, c'est complètement l'inverse. Et puis tu vois qu'ils prennent plaisir et que c'est un. Moi, c'est personnellement ce que je recherche, d'avoir une espèce d'interaction. Tu vois que les gens sont vraiment happés par la musique, quoi. Enfin, désolé, j'ai un peu développé le truc.
Non, mais moi j'allais même rajouter. Moi, alors je fais plutôt du studio en général, mais j'ai fait une tournée. En fait, j'ai même 3 fois. Je suis allé faire des concerts, des fois une quinzaine d'affilée en Algérie, et c'était la même histoire. Je veux dire, les filles montaient sur scène, se dévoilaient pour celles qui étaient voilées. On voyait qu'elles bravaient carrément le danger. On voyait littéralement les gens avoir accès à un truc qu'ils n'avaient jamais vu, quoi, avec un truc très rock et très. Et c'est pareil, j'ai eu ce sentiment que on était vraiment utile, que c'était vraiment, c'était presque un truc social qu'on faisait, quoi. Tu vois que c'était. Voilà, puis surtout qu'à l'Algérie, il y avait ce truc, la moitié des artistes disaient on n'y va pas, c'est trop dangereux, c'était dément, quoi. En fait, tu rentres de là boosté en te disant c'est là on sert à quelque chose, quoi, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile.
Ouais, exactement. Ouais,
Donc
c'est vrai que
je vois exactement ce que tu dis.
ouais.
Finalement, entre The End of All Things et Natron, il y a eu 6 ans, et
Oui.
par rapport au précédents albums où il y avait eu, je crois, 2, 3 ans entre chaque chanson. Pourquoi c'était une période si longue? C'est la vie ou il y a eu une volonté de poser des bases? Voilà. Pourquoi 6 ans?
Bah écoute, c'est surtout moi j'étais pas mal pris par mon boulot comme je tournais à l'étranger avec Alceste, on a fait vraiment des tournées intensives pendant des fois 3 4 mois d'affilée, j'étais avec des même 6 mois avec peut-être quelques pausantes, j'étais pas dans le coin quoi. Et du coup, ça a un peu repoussé tout ça. Et j'ai commencé à bosser sur les morceaux en ouais, fin 2017. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'album est terminé depuis fin 2019.
Ah oui, d'accord.
Qu'on n'a
Bah.
pas été touché vraiment par le Covid pour la composition. Mais entre-temps, tu vois,
Oui, il y a un petit événement depuis un, ouais.
sur 2 ans et demi, on a bossé voilà, sur l'album en essayant de trouver chacun du temps pour se voir. Parce que David est quand même assez pris avec son studio. Et puis. Voilà, ça a pris du temps, mais on ne s'est pas dit non plus. Maintenant, il faut le faire en 1 mois. Moi, j'arrive pas vraiment à bosser comme ça, surtout pour celui-là où on a poussé les choses vraiment
Ouais, et puis
jusqu'au bout, quoi.
changer beaucoup de choses, ouais,
Ouais,
carrément. Ouais.
carrément.
Donc en fait, c'était pas si long, en vrai.
Ouais, non, bah oui, mais des fois, on se rend pas compte qu'effectivement, il y a tellement de choses qui ont été bouleversées ces derniers, depuis au moins un an que. Et donc, justement, enfin, gros changement, j'en sais rien. Donc, vous êtes passé des Anglais de Candlelight aux Allemands Pelagic.
Oui.
Là aussi, enfin, sans dévoiler de secret, il y avait une volonté de changer ou ça s'arrêtait avec Candlelight et après t'es allé tester un peu le marché, voir qui était intéressé ou...
En fait, moi, j'avais pas vraiment envie de continuer avec Candlelight parce que la communication n'était pas terrible. Et ils en
D'accord.
avaient pas grand-chose à foutre de nos demandes. Après, moi, je demandais pas grand-chose. C'est plus d'ordre d'avoir un vinyle qui sort en même temps que le CD ou tu vois, d'avoir de certains
Minimum.
promos plus poussés ouais, on était un peu pris de haut et puis moi ça m'a pas plu et puis en même temps après quand on a sorti Natron ils ont été rachetés par Universal et Spinefarm. Alors, au début tu te dis bon bah ça va être cool, ça va être voilà la promo, ils vont mettre le paquet, ils ont certainement plus de budget, mais il s'est avéré qu'il y a beaucoup de groupes se sont barrés de chez eux parce que ça voilà il y avait une personne en particulier qui était assez lunatique et puis moi je m'étais déjà pris un peu la tête avec lui et à un moment donné je me suis dit non j'ai pas envie de continuer comme ça c'est des gens parce que j'ai envoyé par exemple les démos et j'étais assez content de voilà des démos que j'avais fait et puis il m'a dit ouais, mais c'est bon c'est juste des démos il les a même pas écoutés je dis bon bah là c'est j'ai pas envie de continuer et puis j'avais En même temps, pareil, j'avais discuté avec d'autres groupes qui bossaient avec Candlelight. Ils m'ont dit, ouais, mais on s'est barré à cause de la même chose parce qu'il voilà, s'il y a quelque chose de.
De pourri au royaume de.
Ouais. Bah,
Ouais.
bref, je vais pas dire de gros mots, mais bah, après, ils ont fait quand même du boulot plutôt correct.
Il
Mais.
finit plus, il y a assez de monde sur le marché, hein.
Ouais. Et puis bah, après, bah, je sais que Robin de Pelagic, il lorgnait déjà un petit peu sur Crown. Et je me suis dit, c'est vraiment un label qui pourrait vraiment faire voilà, esthétiquement, et vu qu'ils sont très ouverts d'esprit, et ouais, s'ils sont assez pointus musicalement, bah, je lui ai envoyé les démos, et puis il a tout de suite dit, OK, bah, je vous signe pour le prochain album, et puis là, ça se passe super bien, tu vois que c'est des gens passionnés, on est très interactifs, tu vois, humainement, et ouais, ils adorent l'album déjà, donc ils ont tout fait pour que. Même au niveau du packaging, tu vois, du vinyle, ils ont fait un truc qui. Il n'y a pas énormément de groupes chez eux, je pense, qui ont le vinyle est vraiment beau, quoi. En toute humilité, c'est pas pour non plus vendre le produit, mais on a quelque chose d'assez fou, hein. Tu vois rarement des produits comme ça aussi beaux, quoi, avec le.
Oui, puis ils aiment, je me permets, hein,
Ouais,
ils
vas-y,
aiment,
vas-y.
ils aiment vraiment le disque, hein, je veux dire, c'est flagrant dans les commentaires qu'ils font, dans la manière dont ils le décrivent. Pour être honnête avec toi, on s'est même pincé un petit peu quand on a commencé à lire un peu la manière dont eux voyaient ce disque. On s'est dit vraiment, c'est waouh, tu vois. Donc ça, c'est quand même génial que d'avoir une équipe autour de toi qui est vraiment complètement conquise par le truc que tu as envoyé. Hein. Je veux dire, je te dis, à la limite, on était presque surpris. On s'est dit, ah bon, à ce point-là, quoi. Donc ça, c'est dément. Hein. Moi, c'est la première fois que j'expérimente de bosser avec une maison de disques qui est comme ça à fond sur un disque. Hein. Tu vois, c'est pas fréquent, quoi.
Non, non, c'est pas fréquent. Et puis le fait de pouvoir, tu vois, d'avoir cette connexion humaine que tu peux pas forcément avoir si tu as une major derrière. Après, tu as la major qui va effectivement, tu vois, plus de visibilité et le reste, mais tu as ce côté humain qui disparaît quand même, quoi. Je pense, hein.
Oh, ça dépend des humains et
Ça
de quel
dépend de.
major, hein, je veux
Ouais,
dire.
ouais.
Mais là, c'est vrai qu'on est bien servi, quoi.
Ouais.
D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de quel titre vous avez finalisé en premier?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est
Bonne
une question
question.
plus pour moi. Alors, moi, je ne bosse pas de cette manière-là quand je produis et quand je mixe, parce que j'aime bien avoir une vision globale. On les a, si tu veux, à partir du moment où on a fait les voix, qui est souvent un petit peu, je dirais pas l'étape finale, parce que c'est une étape essentielle avant de finir un petit peu les arrangements autour de la voix. La voix, c'est quand même central. Mais une fois qu'on avait ça, moi, j'ai tendance à mixer un petit peu tout en même temps, quoi. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, techniquement, tu peux te le permettre, hein, tu peux fermer un projet et puis en 10 secondes, tu en ouvres un suivant. Donc, on les a un petit peu finalisés tous en même temps parce que c'était important. Il y avait aussi une histoire de dynamique globale et générale et puis une espèce d'invitation au voyage, hein, j'ai envie de te dire, de manière un petit peu poétique. C'était important qu'on ait un truc. Où tu prends l'auditeur par la main dès le premier morceau et t'essayes humblement de l'amener jusqu'à la fin de l'album sans qu'à un moment, tu vois, il disparaisse, tu vois, sans qu'il ait envie de se barrer, quoi. Donc, et ça, à mon avis, c'est si tu prends tous les morceaux comme des chansons individuelles, ça devient presque un hasard, quoi. T'as besoin d'avoir une vision un petit peu globale pour réussir à faire de ton mieux, en tout cas, hein, pour essayer d'aboutir à quelque chose qui soit un objet cohérent, dans son ensemble.
Ok. Il y a 10 titres qui apparaissent sur l'album. Est-ce que vous en
Ouais.
avez finalisé plus et après fait un tri, ou vous êtes concentré directement sur ces 10 titres-là?
On en a fait, il me semble qu'on en a finalisé 12, un truc comme ça, c'est possible
Oui,
ça avec
je pense qu'à la base, il y en avait 13 ou 14,
Ouais.
à mon souvenir. Et il y en a un ou deux qui ont été élagués vraiment vers la fin, parce
Ouais.
que. Et ils ont bien résisté. Hein. Ils ont bien résisté. Et ils avaient un intérêt aussi, mais bah déjà, ça nous semblait un petit peu long. Et puis, comme on a quand même. Et ça vient de Steph, hein, il a un tempo de prédilection, alors que de temps en temps, duquel on sort un petit peu des fois, mais on était quand même attentif à essayer de ne pas être. Voilà, de pas être trop long, et puis il y avait quelques trucs qui comment je peux dire, qui peut-être collaient pas tout à fait, quoi. Donc et puis on a quand même pris le risque avec le morceau dont tu nous parleras peut-être ou pas, de avec Karine à la fin, qui déjà était assez différent, donc on voulait pas se s'éparpiller non plus, quoi.
Ok, non, j'avais prévu de poser une question sur le titre avec le duo, effectivement, la voix féminine. Juste, on va mes deux dernières questions, parce que quand même le temps file, et puis je pense qu'on a d'autres derrière moi. Il y a un gros travail, donc tu le mentionnais un peu sur l'aspect objet déjà du vinyle, mais un gros travail sur les visuels. À la fois la pochette, qui je trouve est assez magnifique, bon, le côté très sombre, bon, enfin, est splendide. Et puis aussi, donc, le travail des clips, qui a priori, c'est la même personne, la Max Loriot, qui a signé aussi Illumination,
Ouais, ouais,
l'animation. Comment vous avez bossé avec lui? Quel était un peu le pitch que vous lui avez fait?
ouais. Écoute, on bosse avec lui depuis l'album Psychurgie. Donc, à chaque fois, je lui ai donné carte blanche sur le par rapport au. Je lui ai envoyé les morceaux, même si c'était encore à l'état de démo, mais comme ça, il pouvait se faire une idée un peu de l'atmosphère qu'il y avait de l'album. Et puis plus le titre de l'album. Donc après, je lui dis, bah, écoute, fais ce qui te passe par l'esprit, ce qui te. Et à chaque fois, il a fait des trucs vraiment assez incroyables. Hein. Puis la pochette du nouvel album, il a été inspiré par le film Le Septième Sceau, en fait.
D'accord.
Le film d'Ingmar Bergman, c'est le jeu d'échecs contre la mort.
C'est
Donc,
ça, oui. Voilà la pièce du roi.
voilà, ouais.
D'accord. Oh, ben non, ben, ça, magnifique. Hein. Et le clip, il est très beau visuellement, et effectivement, il colle parfaitement à l'ambiance du titre.
Ouais, puis il a fait quelque chose d'assez. Je pense que le clip, quand tu le vois, il marque pas mal parce qu'il y a une espèce de message dedans. Et puis et c'est son premier clip en plus, hein, en animation. Donc quand il nous a envoyé les premiers rushs, on était sur le cul. J'ai dit, putain, bah c'est assez dingue s'il arrive à créer comme univers comme ça et qui correspond vraiment à pas forcément la vision que je peux avoir des choses, mais il y a quelque chose de.
Ouais, de
C'est
cohérent, hein.
de cohérence, c'est des fois assez magique dans ce genre de moment parce que tu te dis, mais ouais, il y a comme une connexion quoi, entre
Mais moi, j'avais envie de rajouter que quand tu bosses avec des gens talentueux et surtout que tu as bien choisi, qui collent bien à ton truc, très franchement, il n'y a pas besoin de les briefer des masses. Hein. En général, c'est même peut-être mieux de ne pas trop les briefer. Hein.
Ouais, mais c'est ça.
Si c'est bien fait et si ça a été bien choisi, parce que c'est quand même aussi le but de tout ça, c'est aussi de nous aussi de redécouvrir ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, c'est comme génial. Quand tout d'un coup tu reçois le truc et tu dis oh putain waouh tu vois et à mon avis c'est bien que nous aussi on prenne une petite tarte de temps en temps et pour moi en tout cas c'est le cas sur et le visuel et le clip hein, je veux dire
ouais voilà. Et puis j'ai toujours aussi cette c'est pas ouais, on peut parler de philosophie de même par rapport tu vois aux paroles de l'album de ça rejoint un peu ça. Qui a ce côté abstrait où tu vas chacun peut se faire un peu sa propre interprétation de ce que tu as créé selon comment il perçoit la musique ou ce qu'il ressent à travers les morceaux. Et je pense que je vais pas vraiment donner de directive à Max à chaque fois hein. Je dis bon, écoute je t'envoie l'album, tu écoutes et puis après tu et à chaque fois ça a bien fonctionné quoi.
Et donc juste pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois qui viennent?
Écoute, bah que l'album plaise aux gens, enfin surtout ça, je pense que ça puisse les toucher et que il y a pas vraiment de message très clair dans cet album, mais que ça puisse les faire vibrer quoi.
Et puis qu'un maximum de gens l'écoutent, hein, ça déjà, qu'ils l'achètent d'ailleurs ou pas, hein, tu vois, mais qu'ils l'écoutent. Et je nous souhaite à nous et à nous tous, en fait, hein, à toi et au reste des humains, putain, c'est tellement dément de dire un truc comme ça, mais qu'on revienne à quelque chose où on peut de nouveau être un peu plus en contact réel. Voilà ce qu'on souhaite à tous parce que c'est dommage de faire des choses comme ça et d'être obligé de les faire tu vois un petit peu comme ça dans chacun dans son coin, c'est vraiment dommage quoi.
Et quand tout ça sera tassé, vous avez des envies de concert ou pas?
Ouais bah écoute, on avait déjà une tournée qui a été reportée deux fois là. Et on a une tournée avec Enslave qui devait avoir lieu en novembre l'année dernière, en mai cette année, mais là c'est reporté à février 2022, donc ça sera sur un mois quasiment en Europe. Et okay. Donc il y a des dates en France, après je ne sais pas si ça va rester les mêmes, mais.
Ok, je ne sais pas les réseaux sociaux.
Ouais, et puis on a enregistré aussi un live stream pour le festival Roadburn, et ça ce sera.
Ah oui, c'est avec Pélagie, ouais, j'ai vu. Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, il y a quatre morceaux que tu pourras voir la semaine prochaine. C'est, ouais, c'est gratos. Et, puis, ouais,
et c'est quasiment en même temps que la sortie de l'album.
Ouais, ouais,
quasiment
ouais.
Au jour près. Hein.
Ouais, voilà, ouais. Ça tombe bien. Ouais.
Génial. Un grand merci de nous avoir répondu.
Merci à toi.
En tout cas, l'album est super. Et donc, je pense qu'il va, il va faire son effet auprès des fans. Et puis, à très bientôt pour les suites des aventures de Crown.
À bientôt.
Merci à toi. C'est gentil. Salut.
Salut.